Chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. Nous étions en plein carême lors de la précédente émission. C'était même la semaine sainte. Et j'ai le souvenir d'une atmosphère lourde, plombée, annonçant la mort de Jésus et le désastre qui s'en suivit. Mais aujourd'hui, toute cette tristesse a disparu. Mais elle n'est pas complètement oubliée. Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. En vérité, la vie et la joie sont de retour. Nous sommes encore dans l'heureux temps pascal. Alors, chers amis de Radio Courtoisie, figurez-vous que j'ai trouvé dans mon casier de patron d'émission, comme on dit ici, j'ai du mal à dire patronne, ça me semble un peu grivois, un peu égrillard, enfin impropre à la fonction telle que je l'aperçois. Donc figurez-vous que j'ai trouvé dans mon casier un petit livre qui m'a fort intéressée et que j'ai lu presque d'un trait, tant son style est vif et le sujet bien touchant. L'auteur, ou selon la demande et le dictat des bien-pensants, au féminin l'auteureux ou l'autrice, eh bien, l'auteur en est une néophyte, une personne qui vient tout juste de recevoir le baptême, là, lors de la veillée pascale. C'est tout frais. L'an dernier, à la même époque, je recevais le père Michel Viau, qui nous parlait de son heureuse surprise en voyant tant de catéchumènes adultes demander le baptême. Et cette année, de nouveau et encore plus nombreux, des adultes de tous âges se sont fait baptiser pendant la veillée de Pâques. Alors ce soir, j'ai donc invité Annabelle Piquet, qui vient tout juste exprès de Dijon pour nous, tout comme le papillon sort de sa chrysalide, la catéchumène Annabelle est devenue Annabelle la néophyte. Alors néophyte, c'est ce qui s'appelle une nouvelle plante, néo, nouvelle, et phyte, c'est les plantes, nouvelle plante, une jeune pousse. Ça s'appelle aussi une start-up, mais ça on ne peut pas le dire ici, on peut le dire hors du studio de Radio Courtoisie, et j'arrête là, car je risque de me faire rançonner par le petit cochon tirelire du studio qui veille là, sur la langue française. Alors, bonsoir Annabelle Piquet, merci d'être venue. Votre livre, petit livre, m'a vraiment touchée, et à plusieurs titres. En fait, c'est vous qui m'avez touchée.
Bonsoir Nicole.
Vous avez fait bon voyage ?
Oui, je suis arrivée dans la journée, par le train.
Et en arrivant ici, vous avez eu la surprise de ne pas vous trouver seule sur les trottoirs, sur la rue.
Oui, je ne m'attendais pas à autant de monde dans le quartier et j'ai dû interroger même des passants, hein, en bonne provinciale que je suis. Et j'ai appris qu'il y avait, c'était soir de match, c'était soir de match au Parc des Princes.
Oui, et quand on est à Radio Courtoisie, quelquefois, on entend même le match en direct. Alors, donc vous avez fait un bon voyage. Merci d'être venue. Nous allons parler donc de votre livre et de votre parcours qui est tout à fait unique. Alors vous êtes née à quel endroit ?
Alors je suis née à Londres. Je suis née à Londres parce que... Alors je suis de nationalité française, mais mes parents, qui sont tous deux aussi de nationalité française, habitaient et travaillaient à Londres à cette période-là. Donc moi et ma grande sœur, nous sommes nés là-bas.
Et vous avez grandi ?
Et j'ai grandi en France parce que je n'ai aucun souvenir de l'Angleterre, parce que mes parents sont revenus en France quand je n'avais que 2 ans. Donc je n'ai pas de souvenir. J'ai grandi en région parisienne. J'ai fait des études de lettres à Paris et j'ai fini mes études à Dijon.
Vous étiez au lycée à Paris ou dans...
Alors, j'étais au lycée en banlieue parisienne et j'ai fait des études... Alors, c'était du côté de Corbeil-Essonne dans le 91.
Ah, mais...
Et après, j'ai fait mes études littéraires à Vanves, au lycée Michelet de Vanves.
Au lycée Michelet.
Voilà, en Hippocagne et en Cagne.
Alors, pourquoi les lettres? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que c'est venu?
Alors, ça n'a pas été un choix simple, les lettres, parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, j'aimais autant les matières scientifiques que les matières littéraires.
Ah.
Et j'ai longuement hésité entre m'orienter justement vers des études de sciences ou des études de lettres.
Et qu'est-ce qui vous a fait choisir?
Je ne sais pas. L'instinct, la sensibilité, il y a vraiment quelque chose qui m'attirait dans toutes les études littéraires, que ce soit les études de philosophie, les langues vivantes, la littérature. Et je n'ai vraiment mais jamais regretté d'avoir fait ces études de lettres-là. Ça m'a beaucoup parlé.
Dans les études de lettres, quand même, il y a un peu une histoire de cœur avec les études de lettres. Mais est-ce que dans les études scientifiques, on retrouve ça?
Je pense pas. Je pense que j'avais vraiment la sensibilité du cœur pour faire des études de lettres. Et d'ailleurs, preuve en est, quand j'y étais, j'ai beaucoup aimé ces années-là et je me suis toujours sentie parfaitement à ma place.
Oui, voyez. Bien vous en appris, parce que ce que vous écrivez là dans votre petit livre, c'est tout petit, hein, c'est un... Combien de pages?
Un peu plus d'une centaine, je pense.
Oui. Et c'est un petit livre qui ne coûte pas très cher, hein, 16 euros. On peut tout à fait l'acquérir. Alors, je vais dire le titre. Si la neige tient, je vais vivre. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Donc, c'est une histoire qui se passe en hiver.
Est-ce qu'il vous plaît le titre? Nicole, est-ce qu'il vous a plu quand vous l'avez trouvé dans votre casier?
Le titre interroge, justement. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est la neige? On se pose toujours la question quand il neige, est-ce que ça tient? Hein, c'est une question courante.
Alors le titre, c'est une phrase qui est extraite de mon livre, voilà, d'une scène qui se passe tout au début de mon livre, puisque mon livre est un récit chronologique qui commence en novembre. Et donc, c'est les premières neiges dont je parle. Et la neige, c'est aussi la fragilité. Et mon livre est beaucoup une histoire aussi de fragilité.
Alors, je trouvais que votre livre, il se divise en chapitres. Mais ce sont de curieux chapitres. C'est le mois de décembre, le mois de janvier. Hein, comment ça se passe? Novembre. Je lis, il y a une préface, un avant-propos, et puis le premier chapitre s'appelle Novembre. Ensuite, il y a décembre, janvier, février, mars. C'est quelle année?
Alors, le mois de novembre, c'était en 2024, et donc le mois de mars, c'est en 2025.
Et aujourd'hui, la néophyte, c'est en 2026.
C'est en 2026 que j'ai enfin reçu le baptême, après ce long chemin semé d'embûches.
Alors, pour parler de ces dates, c'est l'hiver. Est-ce que nous pouvons demander à notre chère technicienne de nous passer les quatre saisons? Mais c'est précisément l'hiver de Vivaldi. Hein? C'était votre souhait?
Oui, merci.
Thank you. Alors, Annabelle, vous avez donc fait ces études de lettres. Et puis, vous êtes posé la question, sur quoi est-ce que cela va déboucher? Qu'est-ce que je vais en faire de ces études de lettres? Et alors, qu'avez-vous fait?
Eh bien, de manière assez surprenante, à la fin de mes 2 ans d'études littéraires, j'ai passé les concours pour faire une école de commerce. Et je les ai eus. Et je suis arrivée donc à Dijon pour faire l'école de commerce de Dijon. Et à poursuivre dans un master en... Alors, j'ose pas dire management et marketing, puisque j'ai compris qu'ici, il fallait pas dire d'anglicisme, mais j'ai fait des études de vente. Donc,
d'aménagement.
Voilà, j'ai suivi la voie de l'entreprise et je m'y suis aussi sentie très bien, tout à fait à ma place dans ces études-là. Et d'ailleurs, j'ai continué dans cette voie-là sans jamais oublier la littérature et en laissant toujours une place dans mon cœur pour ce domaine également.
Oui, c'est une histoire de cœur, hein, la littérature.
Oui.
Alors, donc, combien de temps est-ce que vous êtes restée en école de commerce?
Alors, j'avais déjà fait 2 ans, donc après le bac d'études littéraires, et j'ai continué 3 ans en école de commerce jusqu'à obtenir tout simplement un diplôme de master.
Ah, et alors, qu'avez-vous fait avec ce diplôme?
Eh bien, avec ce diplôme, j'ai trouvé mon premier emploi aux Galeries Lafayette.
Où ça?
À Dijon, toujours. Alors, moi, je suis restée à Dijon parce que je suis tombée, la Parisienne que j'étais est tombée amoureuse de la ville, tout simplement. Je suis tombée amoureuse de Dijon et j'ai décidé d'y rester après mes études.
Alors, qu'est-ce qui vous a fait plus autant à Dijon?
Alors, Dijon, je pense que c'est une ville assez méconnue parce qu'en fait, c'est extrêmement riche au niveau architectural. C'est absolument magnifique. Il y a vraiment un patrimoine extraordinaire. Je me lasse jamais de me balader dans les rues de Dijon. Il faut toujours lever la tête pour voir tout ce qu'il y a à voir au niveau patrimoine. C'est à la fois une métropole, donc il s'y passe beaucoup de choses, même au niveau culturel. Et en même temps, c'est une ville qui est très agréable à vivre.
Et ensuite, il y a donc eu votre éducation. Est-ce que il y avait une éducation religieuse chez vous? Est-ce que vos parents allaient à l'église? Comment est-ce que ça se passait sur ce plan-là, sur un plan spirituel?
Alors, comme vous vous en doutez, si j'ai été baptisée à 37 ans, c'est que je ne l'avais pas été enfant. Donc non, il n'y avait pas de religion chez moi. J'avais des parents vraiment athées, mais j'ai des parents qui m'ont quand même donné le goût des églises.
C'était des parents qui ont vécu mai 68, peut-être?
Oui, tout à fait.
Voilà. Oui.
Mais mes parents m'ont quand même apporté le goût des églises au niveau patrimonial, c'est-à-dire que partout où on allait, on rentrait et on visitait les églises. Et comme je le dis, des fois, on les visitait sans notion du sacré. C'est-à-dire qu'on les visitait comme on visitait un château, c'est-à-dire avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'intérêt pour l'histoire du lieu. Mais cette dimension du sacré, je l'ai vraiment découvert seule et plus tard, parce que chez moi, c'était pas du tout la question.
Mais vous êtes une personne bien élevée. Quand on est dans une église, on essaie de ne pas parler fort.
Exactement, on m'a appris à respecter hein, les lieux, voilà, apprécier leur histoire, à respecter aussi ce qui s'y passait, mais je les visitais.
Et il y avait des questions qui se posaient pour vous? Pas du tout.
Pas du tout quand j'étais jeune. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu bien plus tard.
Et comment est-ce que cela s'est passé?
Alors, j'aime bien dire que... Autant mon entrée en catéchuménat, c'est vraiment un événement que d'ailleurs je raconte dans mon livre, si vous vous souvenez de l'épisode de ma crise de foi, comme je l'aime appeler. Autant l'entrée dans l'église, c'est-à-dire vraiment dans la foi, ne s'est pas fait brutalement, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de le dater.
C'est un sinueux.
C'est un chemin, c'est-à-dire que c'est un appel, mais un appel qui a été très... progressif pour moi, c'est-à-dire une envie d'aller à l'église, un intérêt pour les textes. Vous voyez, j'aime toujours dire que mon...
Littéraire,
encore une fois, c'est-à-dire que ma première rencontre avec la foi, ça a été vraiment une rencontre spirituelle, par des textes, par de la théologie, par un intérêt que j'ai trouvé à lire, justement.
Mais on ne fait pas de théologie comme ça?
Alors, je ne faisais pas de théologie, je lisais des écrits de gens qui, eux, savent faire de la théologie. Puis des fois, des choses très simples, hein. Je serais incapable de vous citer des ouvrages, mais des fois, vous savez, des petits livres de vulgarisation religieuse.
Quand on lit Pascal ou quand on lit beaucoup de grands textes, il y a beaucoup de grands textes qui parlent de religion, ça vous attirait? Qu'est-ce que ça produisait en vous?
Alors j'aimais bien, par exemple, j'ai des souvenirs extraordinaires des cours de philosophie, parce qu'en cours, oui, de philosophie, il y a quand même beaucoup de textes qui ont une consonance religieuse. Et je me souviens particulièrement que les propos de Kant, notamment de Emmanuel Kant sur le divin, moi, ça m'avait beaucoup touchée. Et j'avais pas interprété à ce moment-là à quel point ça m'avait touchée, mais je pense que c'était, rétrospectivement, je pense que c'était quand même le début d'un appel. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que ça a été un chemin très lent. Et d'ailleurs, dans mon parcours de catéchuménat, je disais, vous voyez, j'ai 37 ans, j'ai mis le temps. J'ai mis le temps pour arriver jusqu'au baptême, mais parce que ça a été vraiment une découverte très progressive, bon, qui s'est brutalement accélérée sur la fin par les événements. Mais au début, voilà, ça a été une envie de me rendre dans l'Église autrement, justement, de considérer l'Église autrement que simplement comme un joli bâtiment historique. Et des ressentis, et de me dire que je m'y sentais bien.
Vous sentiez une présence ou pas à l'époque? Alors, bien-être?
Une présence, peut-être pas à ce moment-là. Maintenant, oui. Très clairement. Oui. Mais à l'époque, non, une sorte de curiosité. Vous voyez, j'étais curieuse de ces cloches qui sonnaient le dimanche. À ce moment-là, il faut se dire quand même que je n'avais jamais été à la messe de ma vie. J'avais assisté, quand j'étais jeune, peut-être à une ou deux messes d'enterrement ou de mariage. Mais bon, comme tous les enfants, j'étais plus dans l'événement en lui-même que dans le côté sacré de ce qui s'y passait. Et je sentais un attrait, je sentais une curiosité. Que j'ai creusé, voilà, que j'ai voulu explorer, que j'ai creusé de plus en plus.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben,
on va rentrer dans le
on va entrer dans le vif du sujet. On va entrer dans le vif du sujet. Alors, avant d'entrer dans le livre, parce que le livre, il existe justement parce que j'étais en début 2024, je rentre en catéchuménat. Voilà, début 2024, je rentre en catécuménat.
Mais vous aviez, on n'entre pas comme ça, comme on entre dans une église. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se matérialise d'une certaine façon?
Eh bien, j'ai eu une crise de foi. Voilà, mais vraiment une vraie crise de foi, dans le sens où, je vais vous raconter parce que c'est extrêmement cocasse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ma foi évoluait pour moi en solitaire, c'est-à-dire que en dehors de tout dogme, de toute connaissance de la vie chrétienne, j'allais toute seule dans les églises, je lisais des textes, j'essayais de me faire ma propre idée, je commençais à me mettre instinctivement à prier, mais de manière totalement libre, sans aucune communauté, vraiment, j'y allais en dehors des offices, dans les églises, etc. Et ça me suffisait. Et à ce moment-là, ça me suffisait. Et je pense que si j'avais pas eu cette crise de foi, je pense que j'aurais pu passer le reste de ma vie dans une espèce de foi solitaire, comme ça. Et un jour, en février, je me souviens que c'était très, je me souviens très bien que c'était en février, je me réveille un matin avec une grosse crise de foi. C'est-à-dire, je me sens, mais alors, malade comme tout, je me sens très très mal. Je file chez le médecin qui me dit, c'est bizarre, alors que vous n'avez pas eu d'excès alimentaire, vous avez une crise de foi, il faut jeûner. Il n'y a pas d'autre choix. Pendant des semaines, vous allez devoir vraiment être à l'eau et avec une nourriture
des
très...
Des semaines
Voilà, parce que j'avais une grosse crise de foi. Donc, il me dit, jusqu'à ce que votre foi se rétablisse, il faut jeûner. Donc, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée à jeûner de force, par la force de la médecine.
Et ça n'était pas le carême.
Et ce n'était absolument pas le carême. Je me mets à jeûner. Et là, peut-être une ou deux semaines plus tard, alors que j'étais au travail, dans une réunion... tout le monde part déjeuner, puis moi je dis non, je vais pas déjeuner avec vous. Et j'ai un collègue qui me dit tu fais le carême. Puis moi je lui dis non, je fais pas le carême. Et puis quand il est parti, je regarde mon agenda et je m'aperçois que le premier jour du carême, c'était le jour exact de ma crise de foi. Et là je me suis dit, mais en fait, ma crise de foi était aussi une crise de foi.
Le mercredi des cendres.
Le mercredi des cendres, exactement. Et c'est ce jour-là que je me suis réveillée malade. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est forcément cette concomitance, c'est forcément un signe, C'est-à-dire, c'est le signe qu'il est temps, que j'ai assez vécu ma foi en solitaire, qu'il est temps que il est temps que j'aille plus loin. Donc j'étais extrêmement bouleversée par cette découverte temporelle, voilà, cette concomitance d'agenda. Alors je me souviens, j'étais tellement bouleversée que j'ai traversé la rue et je suis allée dans l'église la plus proche, qui est la cathédrale Saint-Bénigne. J'ai fait irruption dans le bureau du prêtre, mais quand je dis j'ai fait irruption, je crois qu'il s'en souvient encore, pour lui raconter ma crise de foi. Donc il m'a écoutée, hein, très patiemment.
Vous êtes entrée dans la cathédrale et puis vous avez cherché le...
Je suis rentrée dans la cathédrale, j'ai demandé à des gens qui étaient là, qui m'ont expliqué que le prêtre avait en effet une permanence en face, que peut-être je pouvais y aller, que peut-être il s'y trouvait, ou qu'en tout cas je pouvais prendre rendez-vous. Donc je suis allée directement à son bureau, il était là, et il m'a accordé tout de suite du temps, il m'a dit « installez-vous, racontez-moi pourquoi vous êtes aussi exaltée, perturbée ». Voilà, moi j'étais très très exaltée à ce moment-là et je lui dis, mais vous rendez compte, j'ai une crise de foi et en fait c'est Dieu qui m'appelle à faire un carême, j'ai un carême forcé, c'est signe qu'il faut que je rentre maintenant dans la communauté. Et
il était surpris.
Il était très amusé, un petit peu, très accueillant bien sûr, et je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit parce que je lui dis, je comprends pas pourquoi je suis appelée à ça, alors que moi, j'étais très bien dans ma foi, en solitaire, dans ce que je vivais, dans mon rapport à Dieu. Et il me dit, et je me souviens très très bien de cette phrase, parce que ça a marqué mon entrée en catéchuménat, il m'a dit, vous savez Annabelle, ce que vous décrivez, la foi, c'est quelque chose d'immense. Et il dit, comme toutes les choses immenses, c'est plus facile de la porter à plusieurs. Vous verrez. Et il dit, vous verrez en communauté ce que ça va être. Et il avait entièrement raison. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mon prêtre... Mon père, inscrivez-moi, je veux rentrer en catéchuménat. Et ça, c'était donc en février 2024. Et donc en février 2024, je suis rentrée vraiment dans le parcours de catéchuménat.
Et donc ça a duré combien de temps ? C'était un parcours... Alors comme vous avez donc rencontré d'autres catéchumènes ?
Alors, à ce moment-là, j'ai rencontré d'autres catéchumènes, en effet. Pas beaucoup, parce
des
qu'on
adultes,
avait...
Des adultes, des enfants
Alors, en fait, on a des cours de catéchisme, en fait. On est plutôt réunis un petit peu par âge. Hein. Donc, il y a énormément de catéchumènes de nos jours qui ont entre 18 et 25 ans. Souvent, ils sont ensemble à des cours. Et les adultes, au-delà de 30 ans, on essaye de nous mettre ensemble... peut-être par affinité ou parce qu'on a des parcours peut-être plus similaires par génération. Donc j'ai eu le temps, en effet, d'avoir quelques leçons aussi en solitaire avec mes accompagnants au baptême, avec le prêtre qui m'a jamais...
Qu'est-ce que c'est, alors, un accompagnant au baptême ? Qui était-ce ?
Alors, un accompagnant au baptême, en fait, je l'ai appris, hein, je ne savais pas que j'allais avoir des accompagnants. Ce sont des gens de ma paroisse qui choisissent d'être accompagnants, qui sont déjà extrêmement bien établis dans leur foi, donc souvent des gens qui sont chrétiens depuis leur prime jeunesse, qui sont très pratiquants, et qui décident pour contribuer à la vie de l'Église, et aussi parce que ça leur apporte, eux aussi, des choses. Des fois, ça permet de raviver leur propre foi, qui décident d'accompagner des gens vers le baptême. Et donc moi, ça a été un couple... Voilà, un couple de jeunes mariés d'ailleurs, qui venaient de se marier, qui avaient à peu près mon âge, et qu'on choisit de m'accompagner dans ce parcours-là.
Ah oui, et alors, après la crise de foi ?
Eh bien, après la crise de foi, donc, j'ai eu quelques mois de préparation au baptême, que j'ai adoré. J'ai adoré parce que déjà, j'avais l'impression, alors que moi, ça faisait, j'ai quand même 36 ans à ce moment-là, donc ça faisait 15 ans que j'étais dans la vie active, du travail, et j'ai eu l'impression de revenir sur les bancs de l'école et j'ai adoré ça. C'est-à-dire de prendre du temps après mon travail pour aller étudier des textes, pour aller parler de ce que je ressentais, pour avoir d'autres personnes en face qui comprenaient aussi, qui eux savaient que, enfin, je, pour le coup, pour la première fois, je passais pas pour une folle, hein, je veux dire, ils pouvaient comprendre mon exaltation, ils pouvaient comprendre mes ressentis, mes doutes, ils pouvaient aussi répondre à mes questions quand j'en avais, parce qu'ils sont là pour ça, et le prêtre aussi a beaucoup répondu à mes questions, hein. Je pense d'ailleurs qu'il n'en pouvait plus de mes questions parce que j'en avais beaucoup, j'en ai vraiment eu beaucoup, et j'ai vécu là pendant quelques mois.
Et il répondait à vos questions.
Il répondait à mes questions, Oui, avec beaucoup de patience, avec il essayait d'être précis. En plus, il avait compris que j'aimais énormément les textes, donc il me donnait des choses à lire qui pouvaient m'éclairer sur mes questionnements.
Oui, parce que
c'était
il
bien.
Était certainement exigeant, mais vous l'étiez aussi.
Je crois que j'étais plus exigeante que lui.
Oui, mais c'est très, très important pour les prêtres aussi, d'avoir des catéchumènes exigeants.
Oui, alors peut-être que moi, il m'a trouvée trop exigeante, mais peut-être pas trop, parce que c'est un prêtre qui m'a quand même accompagnée jusqu'au baptême. Hein. C'est lui qui m'a baptisée en personne le 4 avril dernier. Donc, ça veut dire qu'il m'en tenait par rigueur, mais c'est vrai que je lui ai beaucoup posé de questions. Je lui ai beaucoup écrit de mails, je lui ai beaucoup téléphoné. Et c'est vrai qu'il a fait de son mieux à chaque fois pour m'éclairer ou m'aider, ou me guider voilà, dans mes lectures. Il m'a donné des choses à lire. Et j'ai adoré ces quelques mois. Je dis souvent que c'était les quelques mois les plus mystiques de mon existence, parce qu'à ce moment-là, j'étais très, très bien. Et j'ai développé, d'ailleurs, à ce moment-là, une obsession totale pour Jésus-Christ. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'était souvent une... je ne vais pas dire une source de conflit entre lui et moi, mais une grande source de discussion, parce que moi, je voulais qu'il ne me parle que de Jésus-Christ. Et j'étais pas très contente quand il y avait une leçon sur les saints, sur la Vierge Marie, parce que je lui disais non, parlez-moi de Jésus-Christ. Et bon, voilà, lui, il essayait de me recadrer un petit peu là-dessus, mais moi, j'avais eu une obsession, c'est-à-dire que dans les églises, les représentations, les Christ en croix, les récits de la Passion, enfin, vraiment, c'était quelque chose pour moi qui me parlait énormément à ce moment-là.
Et il vous avait donc recommandé des livres. Quels étaient ces livres? Je dis ça parce que peut-être que nos auditeurs, les auditeurs de Radio Courtoisie, ont envie ou pourraient lire ces livres qui vous ont porté, qui vous ont nourri.
Oui, alors j'ai pas toujours souvenir des auteurs. J'ai souvenir d'un livre qui s'appelait La vie de Jésus-Christ, justement. Alors par contre, le nom de l'auteur m'échappe, même si je vois très très bien la couverture. Et un livre aussi de catéchuménat, tout simplement, qui s'appelle « Le chemin, la vie, la vérité », et qui s'adresse vraiment aux préparants au baptême adultes. Parce que le problème avec les livres de catéchisme, c'est que la plupart des livres existants s'adressent quand même aux enfants. Et voilà, c'était des fois un petit peu juste, voilà, même si je les ai lus aussi, alors que là, c'était vraiment un livre qui adaptait la préparation au baptême Et ces deux livres-là, c'est vrai que je les ai beaucoup lus, je les ai beaucoup feuilletés. Puis évidemment, des fois, des évangiles, des passages de la Bible sur certaines questions très précises où il me disait, vous pouvez vous référer à là, ça vous éclairera déjà un petit peu. Voilà, il m'a initiée à ce que j'ai appris que plus tard, ça s'appelait la Lectio Divina. Voilà, je ne savais pas ce que c'était et lui m'a un peu initiée à ça, à me dire, voilà, on réfléchit sur ce texte, on en parle après. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet exercice-là dans ma préparation au baptême.
C'est aussi, je crois, que c'est ce que lisent les moines lors des repas. Il y a chez les bénédictins, je crois, il y a un moine qui lit pendant le repas la Lectio Divina.
Hein. La Lectio Divina, oui, c'est vraiment... En fait, c'est une pratique, bien sûr, qui se fait dans les monastères, mais je crois que c'est... Enfin, d'après ce que j'ai appris très récemment, je crois que c'est accessible à n'importe qui, c'est-à-dire de prendre quelques phrases, un tout petit passage d'évangile et de prendre le temps de le lire, de prendre le temps de réfléchir dessus, de prendre le temps avec d'autres personnes. En fait, c'est une sorte de lecture un peu commune aussi, hein, d'échanger sur ce que ce texte nous inspire, comment il résonne en nous. Et j'ai bien aimé cet exercice-là, parce que faut se dire quand même que moi qui étais dans une vie active, c'est un luxe de pouvoir prendre du temps comme ça, de prendre du temps sur quelque chose de vraiment, sur une nourriture spirituelle. Enfin, faut s'imaginer, moi je suis commerçante, c'est-à-dire donc je tiens mon magasin de 10h à 19h, 45 heures par semaine, 5 jours et demi par semaine. Et comme tout le monde à côté, j'ai les courses, j'ai les obligations, j'ai le ménage, j'ai les choses à faire. Et moi, j'ai vraiment vu ça comme une bénédiction de me dire non, je vais prendre ce temps. Des fois, c'était même tard le soir. Hein, mon prêtre, il n'avait pas le choix, vu que je travaillais en journée, de se dire allez, on prend une heure. On prend une heure où où j'ai pas mon téléphone, on prend une heure où on va réfléchir sur quelque chose qui va nous élever. Enfin, en tout cas, qui, moi, m'élevait, qui, moi, me nourrissait, qui, moi, me rechargeait aussi mes batteries, me donnait vraiment de la force. Hein. Moi, j'exagère pas quand je dis que je sortais de mes cours de catéchisme, je me sentais pousser des ailes, quoi. Je rentrais chez moi, mais je me sentais mais tellement portée, quoi.
On va changer de thème quelques instants. Je voulais quand même savoir, vous parler de votre commerce. Vous parliez de votre commerce, mais alors, qu'est-ce que c'était votre commerce? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi, quel choix vous avez fait? Comment est-ce que ça s'est passé?
Oh oui, alors c'est pas extrêmement intéressant, mais en fait, tout simplement,
si, parce que
vous en étiez...
c'est votre vie.
Oui, vous en étiez, vie... Non, vous avez raison. Vous en étiez resté dans mon histoire quand je travaillais, après mes études, j'ai travaillé aux Galeries Lafayette, donc j'ai appris le métier de la vente. Et au bout de 2 ans, j'ai décidé de monter ma propre affaire. Donc j'ai ouvert à Dijon, vu que vous avez compris, c'est la ville de mes rêves. Donc j'ai ouvert à Dijon un commerce de lingerie féminine, parce que j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé les dessous, j'ai toujours aimé l'univers féminin, le conseil. Et je voulais vraiment avoir une petite boutique de proximité. Vous voyez, j'avais pas envie, comme certains qui sortent des écoles de commerce, de monter une grande entreprise, etc. J'étais extrêmement contente. C'était mon rêve. Voilà, c'était mon rêve et je l'avais fait à 2 ans, alors que j'avais 22 ans. Voilà, à 22 ans, j'ai ouvert mon commerce de proximité dans la ville de mes rêves, qui était Dijon. Et donc, en 2024, là où se passe justement ma crise de foi et tout ce qui en découle, ça fait donc 12 ans, 13 ans, voilà, que je tiens ce commerce.
Avec des clientes?
Des clientes essentiellement, à 95% des clientes. Même si j'ai un petit rayon de lingerie masculine, j'ai essentiellement des dames dans mon magasin.
Alors, donc vous vendez des dessous chics?
Oh, chic ou pas chic, hein, je vends des dessous pour toutes les occasions, hein, de la plus simple culotte en coton jusqu'à des choses bien plus élaborées, occasionnelles. Je vends tout type de dessous. Comme je dis, j'accompagne les femmes dans toute leur vie. Vous voyez, j'accompagne les femmes dans leur maternité, leur grossesse. Je vends de la lingerie de maternité. Je vends de la lingerie pour les femmes qui ont été malheureusement opérées. Je vends pour les jeunes femmes. Je vends pour les femmes d'un certain âge. Voilà, c'est l'avantage du commerce de proximité, c'est qu'on aime bien suivre nos clientes, les accompagner tout au long de leur vie, selon leurs envies et leurs besoins.
Ça fait très plaisir de vous entendre en parler comme ça, parce que finalement, on sent que vous le faites avec cœur et que vous y êtes bien.
Oui, j'ai la chance de faire un métier que j'aime, un métier que j'ai choisi et je me suis toujours sentie bien.
Je pense aux apôtres, à ceux qui étaient avec Jésus. Ils avaient des petits boulots. Finalement, vous n'avez pas fait une énorme boutique avec une chaîne. Vous auriez pu. Mais non, vous avez votre petite boutique et les apôtres, ils étaient pêcheurs, ils avaient des petites boutiques à eux, puisqu'ils devaient vendre leur poisson. Un pêcheur, il vend son poisson, hein, par exemple.
Oui, moi j'aime bien avoir... j'ai toujours eu un faible pour les métiers ancestraux, comme on dit. Vous voyez, je me dis que je suis dans une continuité des gens qui avaient une échoppe au Moyen-Âge.
Voilà.
J'ai absolument aucun problème avec ça, vous voyez.
Oui, on sent que
J'ai une amie qui dit souvent « ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait ». Et je me dis « ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait, c'est de bien le faire et de le faire avec cœur, avec amour ». Et moi, j'ai toujours essayé de faire mon métier avec beaucoup de cœur. J'ai essayé de soigner chacune de mes clientes, d'être une bonne commerçante, en fait. C'est-à-dire d'être souriante, de les conseiller au mieux et de faire en sorte que ma boutique, elle soit belle, elle soit bien tenue. Et c'est important d'avoir du sens dans ce qu'on fait.
Oui,
Moi, j'ai toujours trouvé du sens dans ce que je faisais. J'ai toujours aimé ce métier de proximité. Vous voyez, la proximité avec les gens. Et quand on tient un commerce, c'est aussi la vie d'un quartier. Vous voyez, ce qui est très drôle, c'est que mon magasin a toujours été en face de l'église.
Ah.
Et moi, j'ai mis du temps à la voir, l'église en face de mon magasin, alors qu'en fait, j'avais qu'à lever les yeux de l'ordinateur de ma caisse. En face, il y a l'église. Et je l'entends sonner et je l'ai toujours entendu sonner. Et j'aime bien mon emplacement dans Dijon. J'aime bien cet environnement-là.
On va maintenant revenir à la suite des événements. Donc, vous avez donc rencontré ce prêtre, vous avez fait ce catéchuménat, ces rencontres, vous avez appris beaucoup de choses, et puis, qu'est-ce qui vous est arrivé à la suite de cette crise de foi ?
Eh bien, la crise de foi, c'était donc en février, pendant le mercredi des cendres, donc mon entrée en catéchuménat dans les jours qui suivaient. Et se sont passés comme ça donc plusieurs mois, parfaitement bien, où je cheminais vers le baptême. Et d'ailleurs, je cheminais tellement bien que le prêtre m'avait dit que mon baptême aurait lieu en 2025, à la veillée pascale 2025, parce que vu que j'étais bien assidue, voilà, j'en prenais le chemin, parce que le catéchuménat, c'est un parcours qui peut durer plus ou moins longtemps, hein, selon si les gens ont beaucoup de temps à y consacrer ou pas, selon... c'est un peu l'appréciation aussi du prêtre. Donc, donc j'ai cheminé, voilà, jusqu'en novembre. Voilà, jusqu'en novembre 2024. Et en novembre 2024...
Et novembre, c'est un de vos chapitres.
Voilà, novembre 2024, c'est le début de mon livre et c'est le moment où ma vie bascule.
Alors, racontez-nous un petit peu.
Eh bien, en novembre 2024, à la suite d'un examen de routine, une simple radio des poumons, hein, parce que j'avais une toute petite toux qui passait pas, mais bon, on est en novembre, il fait froid, tout le monde est un petit peu malade, donc je ne m'inquiète pas. Et à la suite de cet examen, tout s'enchaîne très très vite, et on m'annonce que j'ai un cancer. On m'annonce que j'ai un cancer très agressif, très avancé, alors que j'ai 36 ans, que je me sens bien et que je suis en train de vivre la période la plus mystique de mon existence. Et là, le couperet tombe. Mais vraiment, le couperet tombe. L'épreuve, c'est toujours ça. Vous savez, c'est quand il y a un avant et un après et quand on peut dater le moment exact où d'un coup, il y a tout qui vacille. Voilà. Et moi, en novembre, il y a tout qui vacille quand on m'annonce que je suis malade.
Voilà. Comment ça s'est passé, l'annonce ?
C'était... Il faudrait que je vous lise le début de mon livre.
Eh bien oui.
Si vous voulez, parce que c'est l'annonce.
Oui.
Si vous le permettez, c'est vraiment que quelques.
Voilà, pas lire que tout le livre.
Hein, ah non,
il faut que les lecteurs aient...
Je vous promets juste l'annonce, mais parce que je pourrais jamais le raconter aussi bien que je l'ai écrit, si vous le permettez.
Mais
voilà,
oui.
C'est juste trois paragraphes. Novembre. J'ai commencé à me douter que quelque chose n'allait pas quand la secrétaire m'a dit que le médecin allait me recevoir. Il y avait cette fille, avec un gilet jaune, juste avant moi dans la salle d'attente du centre de radiologie Saint-Bénigne. Au moment de récupérer ses résultats, elle s'est étonnée de ne pas voir de médecin auprès de la secrétaire qui s'est alors exclamée « C'est bon signe, madame, ça veut dire que tout va bien ». J'ai donc suivi des yeux la fille au gilet jaune, qui s'éloignait, souriante. Résultat sous le bras. Téléphone portable déjà en main, prête à appeler ses proches et les rassurer. Moi, je me suis dirigée fébrile vers le bureau où m'attendait la radiologue. Elle était souriante. Trop souriante. Ce sourire maternel et compatissant que j'avais si rarement vu chez des professionnels de santé m'a inquiétée plus encore que ma présence dans son bureau. Elle chuchotait presque en me proposant de m'asseoir et en me demandant comment je me sentais. J'avais envie de lui hurler de cracher le morceau. Oubliez les gants, même chirurgicaux. Nul besoin d'en prendre avec moi. Quand je suis sortie du centre, la nuit m'a paru encore plus froide qu'à mon arrivée. Je n'ai pas su où aller, alors bon petit soldat, je suis retournée à mon travail et me suis enfermée sans bruit dans mon bureau. J'ai sorti la radio de mon sac, l'ai regardée et dans un geste aussi désespéré que naïf, et commencer par vérifier l'identité qui y figurait. Malheureusement, pas d'erreur possible. C'était bien moi, mon corps, mes organes. Sur le papier glacé, mon doigt a suivi lentement les contours de cette énorme tache sur mon poumon gauche. La tumeur mesure déjà 14 cm de hauteur et 7 cm d'épaisseur, venait de m'annoncer la radiologue. Quelques jours plus tôt, la sœur de mon amie Marie m'avait montré sa dernière échographie de grossesse. Elle avait, comme moi, passé ses doigts sur les contours de l'être qui grandissait en son sein et en avait également vanté ses dimensions. Je crois qu'elles étaient similaires. Il faut croire que les images de la vie et celles de la mort se ressemblent, en noir et blanc. Elles tiennent dans une enveloppe à trois.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal du monde de la foi. Nicole Pilorge reçoit Annabelle Piquet qui nous présente son livre « Si la neige tient, je vais vivre » aux éditions Cité des Livres. Et nous évoquons avec son expérience la vie, l'écriture et la foi.
Alors Annabelle, qu'est-ce que c'est que ce « Si la neige tient, je vais vivre » Qu'est-ce qui s'est passé?
La neige n'a pas tenu et je suis toujours là, donc peut-être que ça peut être une leçon d'humilité, par exemple.
Mais quand est-ce que ça s'est passé?
En novembre 2024, donc au tout début de l'hiver.
Le premier chapitre.
Oui, novembre 2024.
Et alors la neige, comment est-ce qu'elle est arrivée ?
Alors la neige que j'évoque dans le titre, c'est celle que je vois tomber depuis la fenêtre de l'hôpital où je suis très vite admise en urgence à la suite justement de mon diagnostic de cancer. Il faut imaginer hein, ces pièces d'hôpital où nous sommes plusieurs femmes en traitement et il n'y a aucun mobilier dans la pièce. On est chacune sur des fauteuils médicalisés avec des perfusions, des potences et il y a une toute petite fenêtre. Et de cette fenêtre, on voit tomber la neige pour la première fois de la saison et ça annonce le début de l'hiver. Et moi, je comprends que l'hiver qui s'annonce va être particulièrement rude, pour ne pas dire décisif pour moi. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai une pensée pour mon grand-père, quand j'étais jeune, qui me disait tout le temps « je passerai pas l'hiver ». Et moi et ma sœur, ça nous amusait, parce qu'à chaque fois, bien sûr, il passait l'hiver. Et là, moi, pour la première fois, je vois la neige tomber et je me dis « c'est peut-être un hiver dont je ne verrai pas la fin. Peut-être que la nature va renaître au printemps et peut-être que je serai plus là pour voir tout le printemps revenir ». Et donc, je regarde cette neige tomber, et cette neige, évidemment, est symbole de beaucoup de choses, hein, de la fragilité à ce moment-là de mon corps. Hein, j'ai l'impression, comme la neige, hein, que ça tient à pas grand-chose. J'ai l'impression vraiment d'être à un point bascule où il suffirait de pas grand-chose pour que je passe de l'autre côté. Et en même temps, j'ai conscience que ce qui va advenir de moi n'est plus vraiment entre mes mains. Hein, que la neige tienne ou tienne pas, ça dépend pas de moi.
Et alors vous avez dit, vous êtes dit, vous ne l'avez pas dit, vous ne l'avez dit à personne, vous l'êtes dit.
Oui, j'ai regardé la neige tomber et je me dis, allez, ça va se jouer à pile ou face. Vous savez, comme dans ces moments-là, je pense qu'on redevient aussi un peu, on se raccroche à des choses de l'enfance. Il y a des gens d'ailleurs qui m'ont dit, à ce titre, ça me rappelle quand j'étais petite. Bah oui, mais parce qu'on fait tout ça, je pense, de se raccrocher à des choses. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon bah... Moi et mes compagnes d'infortune dans ma chambre, on ne voyait pas ce qui se passait en bas. C'est-à-dire, on ne savait pas si la neige tombait. On la voyait tomber comme ça. Et à ce moment-là, oui, je me suis dit, si la neige tient, si cette première neige qui tombe tient, ça veut dire que je vais vivre. Et si elle ne tient pas, bah, je vais mourir.
Et alors ?
Et alors, la neige n'a pas tenu et je suis toujours là.
Ah ! Alors, on va revenir au baptême. Revenir au baptême et demander à Aline de bien de nous passer l'air du baptême, c'est-à-dire j'ai vu des fleuves.
J'ai vu des fleuves d'eau vive.
Alléluia.
Jaillir du côté du temple.
Alléluia, alléluia.
J'ai vu la source du temple.
Alléluia, alléluia.
Grandir en un fleuve immense.
Alléluia, alléluia.
J'ai vu des fleuves d'eau vive.
Alléluia, alléluia.
Jaillir du côté du temple.
I saw water flowing.
Alleluia, alleluia.
From the right side of the temple.
Alleluia, alleluia.
It brought God's life and salvation.
Alleluia, alleluia.
The people praise with joy.
Alleluia, alleluia.
Que lave l'eau vive.
Alléluia, alléluia.
Acclame et chante ta gloire.
Alléluia, alléluia.
Ton cœur, Jésus, est la source.
Alléluia, alléluia.
D'où coule l'eau de la grâce.
Alléluia, alléluia.
Eh bien, c'est ce qui accompagnait votre baptême.
Exactement, ça fait partie des chants qui ont été chantés à la veillée pascale pendant mon baptême.
Donc ça vous revient là?
Ah bah de toute façon, c'est une musique oui, dont je vais me souvenir, hein, parce que c'était... voilà, pour moi, ça, c'est la musique qui représente mon baptême et surtout qui me rappelle la joie qu'il y avait pendant mon baptême.
Alléluia.
Alléluia. Non, c'était une cérémonie très joyeuse et d'ailleurs, je devais le sentir début 2026 parce que j'avais 2025, vous voyez, c'était l'année de l'espérance. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les autorités religieuses que c'était une année jubilaire, oui, sous le signe de l'espérance. Mais dans ma vie aussi, c'était l'année de l'espérance. Et début 2026, on m'a dit alors, c'est quoi 2026? Et je dis, ce sera l'année de la joie. Ce sera une année sous le signe de la joie. Et mon baptême était mais tellement plein de joie. Et tous les gens qui étaient là, d'ailleurs, m'ont dit, alors je pense que c'est pareil pour tous les baptêmes, mais en tout cas, moi, j'ai ressenti ma joie et la joie des gens qui étaient présents. C'était très communicatif.
Et votre père était là?
Mon père était là.
Et la réaction de votre père?
Alors, je pense qu'il était content d'être là parce qu'il a senti, déjà ma sœur était là aussi parce que ma sœur a une place extrêmement importante pour moi. Ma tante, qui est ma marraine, donc il y avait quand même d'autres personnes de la famille. Enfin, voilà, tout le monde s'est déplacé pour moi. Et il faut voir aussi que ce baptême, c'est aussi le symbole pour toute ma famille, indépendamment de la religion, que je suis encore là pour me faire baptiser, que je suis arrivée jusqu'au baptême. Donc, je leur en ai tellement parlé de mon baptême que... Évidemment, tout le monde était là et tout le monde m'accompagnait ce soir-là.
Mais avant ce baptême, il s'en est passé des choses.
Un chemin semé d'épreuves, d'embûches, et avec des épreuves, oui.
Et qu'est-ce qui vous a aidé à vivre cette épreuve? Comment est-ce que vous avez cheminé dans cette épreuve terrible?
En fait, c'est pour ça que ce livre existe, c'est parce qu'il y a la foi. Parce que moi, je le dis toujours, j'aurais pas écrit ce livre s'il n'y avait pas eu la foi. Parce que mon témoignage médical ne vaut rien. Mon témoignage médical ne vaut rien dans le sens où ce qui m'est arrivé, malheureusement, ça arrive peut-être toutes les heures, toutes les 10 minutes peut-être à une femme en France à qui on annonce qu'elle a un cancer. Mon histoire, elle n'a rien d'exceptionnel, même si pour moi, dans ma vie personnelle, c'est l'épreuve de ma vie, c'est le tsunami qui arrive sur moi, mais je n'aurais pas écrit ce livre s'il n'y avait pas la foi, et j'aime bien dire que mon livre, sa colonne vertébrale est en forme de croix. Ça veut dire que si on enlève l'aspect religieux de mon livre, y a tout qui s'écroule. On peut l'apprécier sans être dans la foi, mais on l'apprécie quand même beaucoup plus quand on comprend la foi profonde qui anime ce livre. Et je l'ai écrit parce que ce qui m'a paru extraordinaire à ce moment-là, c'est donc pas mon épreuve de maladie, c'est parce qu'il y avait cette concomitance. Je me suis dit, mais il faut interroger le fait que cette épreuve m'arrive précisément à ce moment-là de ma vie. Parce qu'il faut savoir que voilà, mon catéchuménat, c'était l'affaire d'un an, à peine un an. Et je me dis, dans toute ma vie, j'ai 36 ans, dans toute ma vie, il a fallu que le cancer me tombe dessus précisément à ce moment-là. Pas après 2 ans plus tard, pas 2 ans avant, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là où la foi a grandi en moi, et en plus dans mon cœur, j'ai une tumeur qui grandit exactement au même moment et exactement au même endroit. Et d'ailleurs, je le dis dans mes livres, mais que toutes ces fois où je faisais des signes de croix sur mon thorax, en fait, je bénissais aussi ma tumeur qui grandissait au même endroit. Et ça, ça interroge. Et ça interroge tellement que c'est le sens de mon livre. C'est le sens de mon livre, de qu'est-ce que je fais de cette concomitance. Et surtout, c'est un témoignage rare d'une foi qui débute, parce que les gens qui tombent malades et qui sont chrétiens depuis leur plus tendre enfance, voilà, je pense qu'ils vivent la maladie dans la foi comme ils ont toujours vécu. Je veux dire, toutes les épreuves de leur vie et toute leur vie comme on dit, pour le meilleur et pour le pire, voilà, ils sont chrétiens. Et puis il y a les gens qui découvrent la foi dans l'épreuve parce que, voilà, qui, comme Voltaire, vont se faire baptiser à toutes fins utiles, sait-on jamais. Voilà, c'est-à-dire, ils sentent la mort arriver et puis, je me fais baptiser. C'était pas mon cas, puisque moi, justement, la foi était déjà là. Et je pense que beaucoup de gens de mon entourage se sont dit, elle va arrêter son parcours de foi. Vu l'épreuve que la vie lui envoie, elle va s'en détourner.
Oui, beaucoup auraient dit, c'est bien la peine que...
Voilà.
C'est bien la peine que je sois en train de vouloir être chrétienne, baptisée, etc. Je fais ce chemin et c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ce chemin? Il y a un autre chemin et que cela évoque.
Exactement, Nicole. Le chemin que je vais prendre dans cette maladie, c'est mon chemin de croix. C'est clairement mon chemin de croix. C'est-à-dire que après avoir vécu la maladie, après avoir vécu la foi, pardon, d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire voilà, je me sentais connectée à Jésus-Christ, mais par les textes, par les Écritures, en fait, la foi m'est tombée dessus dans ma chair. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, croyez-moi, j'étais beaucoup, beaucoup trop malade pour réfléchir, pour même lire, pour écouter quoi que ce soit, pour prendre la moindre leçon de catéchisme. Je veux dire, j'étais vraiment très, très mal. À ce moment-là, la religion, je l'ai ressentie dans ma chair, au plus profond de moi. C'est-à-dire que toutes les épreuves que j'ai vécues, pour moi, s'apparentaient à un chemin de croix. Et d'ailleurs, on retrouve dans mon livre certaines stations. J'ai vécu une passion christique. Mon sang, à ce moment-là, c'était vraiment le sang du Christ, hein, clairement. Il y avait cette espèce de superposition, c'est-à-dire que mon obsession que j'avais déjà pour le Christ avant m'est tombée dessus jusque dans ma chair. Et quand je dis que c'est un chemin de croix, j'ai senti pendant tous ces mois d'épreuve que je traînais ma croix sur mon épaule. Et quand je dis ça, c'est pas une métaphore, c'est-à-dire que ma tumeur étant positionnée à gauche... Plus elle m'était douloureuse et elle grandissait, et Dieu sait qu'elle grandissait très très vite, plus
elle
je...
Elle grandissait pendant que vous faisiez les chimios, elle grandissait.
Il faut le temps que les chimios se mettent en place, voilà, il faut le temps que les chimios agissent, et quand les chimios agissent, ça réveille aussi les douleurs. Donc, il faut savoir que ce genre de tumeur, dans le cas de mon cancer, ça double de volume tous les 15 jours quand même. Donc là, on est sur une course... contre la montre, hein. On est vraiment sur un temps qui m'est compté à ce moment-là, et chaque jour compte. Et partout dans les couloirs de l'hôpital, partout je boitais presque, parce que j'avais cette croix qui pesait sur mon épaule gauche, c'est-à-dire je traînais une douleur lancinante sur mon épaule, et d'un couloir d'hôpital à l'autre, je traînais ma croix, et d'ailleurs je m'apparentais à toutes les autres femmes que je croisais dans les couloirs, et je me disais, on a toutes la même croix. À ce moment-là, on traîne toute notre croix derrière nous parce qu'on porte quelque chose de très, très lourd. Et c'était aussi un chemin de croix pour moi parce que je n'avais, à ce moment-là, n'étant pas très optimiste comme fille de nature, je n'avais aucun doute de l'endroit où j'allais. C'est-à-dire que pour moi, c'était un chemin de souffrance, mais j'étais tellement persuadée qu'à la fin, c'était la mort qui m'attendait.
Oui, on le sent dans votre livre. Il n'y a pas de plainte. Mais on sent dans quel état vous étiez. J'ai apprécié la manière dont vous présentez votre chemin. C'est sans plainte, vous ne vous plaignez pas. Mais vous dites ce qui se passe.
J'ai écrit ce livre dans l'épreuve avec la plus absolue sincérité. En tout cas, toute la sincérité dont j'étais capable et... D'ailleurs, ayant un cancer du sang, j'aime bien dire que j'ai écrit ce livre avec mon sang, parce que le sang ne saurait mentir. Et surtout, je l'ai écrit voilà, en disant, avec une envie de sincérité et de vérité, dans le sens où je n'ai pas eu envie de me faire passer ni pour une pauvre petite victime qu'il fallait prendre en pitié, et je n'ai pas non plus envie de faire de moi une héroïne. Voilà, j'ai dit les choses. J'ai dit les choses telles que je les ressentais, telles que je les vivais, et d'ailleurs... Sans utiliser d'euphémisme, sans phare, sans artifice. Et d'ailleurs, quand je parle de Jésus-Christ, je parle de Jésus-Christ. Hein. Quand je parle du cancer, je parle du cancer. J'utilise les mots, parce que quand on dit les mots, on évite l'innommable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où nommer les choses, pour moi, c'était déjà les regarder en face. C'était déjà les dire.
Et nous avons reçu un message que Nathalie va nous lire.
Oui, un auditeur de Radio Courtoisie vous écrit « Votre témoignage puissant vous honore de grâces étincelantes, de l'amour que vous porte Dieu. J'espère entendre à nouveau votre voix touchante qui m'aidera au retour à la foi catholique. »
Merci.
Donc,
merci pour ces mots.
Mais je crois que Dieu peut vous remercier aussi d'être avec lui, hein, certainement.
C'est plutôt moi qui le remercie. Vous voyez, c'est ce que... Je remercie beaucoup. D'ailleurs, c'est le dernier mot de mon livre, hein, c'est des remerciements. Et c'est des remerciements adressés à Dieu, mais adressés à tellement de gens. Vous voyez, parce que moi, on me dit souvent, mais quelle a été... parce qu'il y a des gens quand même, ça interroge beaucoup mon parcours de foi en même temps que mon parcours de maladie. Il y a des gens, ils me disent, des gens qui ne sont pas chrétiens,
hein, oui,
qui me disent,
mais
j'ai pas compris, est-ce que Dieu t'a envoyé le cancer ou est-ce que Dieu t'a sauvé du cancer? Et moi, je dis, mais c'est pas ce que je dis. La seule chose que je dis, c'est que la maladie a laissé un vide immense dans ma vie que Dieu a comblé par son amour et sa présence. C'est-à-dire que vraiment, Jésus a habité le vide laissé par la maladie. Et mes remerciements que j'adresse vont, bien sûr, à Dieu, mais aussi au corps médical, à ma sœur, à mon père, à tous ces gens, à mes amis. Si vous saviez tout l'amour que j'ai reçu, si vous saviez tout l'amour que j'ai reçu pendant que j'étais malade et toutes les prières, et d'ailleurs c'est là aussi où j'ai découvert ce que c'était que la communauté, c'est-à-dire mon prêtre, mais des gens de ma paroisse qui me disaient, tiens, on a déposé un cierge. Ma sœur, qui n'est absolument pas chrétienne, a été brûlée des cierges dans toutes les églises qu'elle croisait pour ma guérison. Et il y a plein de gens qui me disaient, j'ai été priée pour toi. Et même des gens qui n'étaient pas chrétiens, ils priaient parce qu'ils savaient que c'était important pour moi. Et il y a eu cette vague d'amour. Il y a eu cette vague d'amour autour de moi. Et je pense que c'est tout ça qui m'a portée.
Oui, la puissance de la prière, on n'en parle jamais assez.
Et la puissance de l'amour aussi.
Oui,
parce que les vagues d'amour, je pense, sont aussi une forme de prière.
Oui, oui, tout à fait.
Aussi une forme de prière parce que des gens qui ne sont pas chrétiens ne vont pas forcément appeler ça prière, mais ces vagues d'amour concentrées sur quelqu'un et sur la guérison de quelqu'un, c'est très très fort.
Je crois que c'est aussi la force qui se dégage des lieux comme Lourdes, comme Medjugorje, dont on parlait la semaine dernière, dans l'émission précédente, dans tous ces lieux de pèlerinage où il y a des guérisons. Et si l'amour n'est pas là, ça ne marche pas. Alors, vous avez... Donc, il y a eu le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier. Quand est-ce que ça a commencé à basculer dans le bon, du bon côté? Quand est-ce que vous avez repris un petit peu de... Vous aviez toujours un peu d'espérance, si ce n'est d'espoir?
Alors précisément, j'avais plus aucun espoir, mais j'avais toujours de l'espérance. Et vous voyez, avant, j'aurais pas saisi la subtile nuance entre les deux, et je l'ai compris, par l'expérience en fait. C'est-à-dire le jour où je me suis retrouvée avec absolument aucun espoir de guérir, mais toujours de l'espérance en moi. Et l'espoir de guérir est revenu avec des nouvelles encourageantes du corps médical début janvier. C'est-à-dire que début janvier, alors que je m'attendais au coup de massue finale, à ce qu'on me dise que le protocole avait échoué, que de toute façon je m'y préparais, mais alors je le sentais venir, que de toute façon ce ne serait pas pour moi la guérison. Et je n'en revenais pas moi-même quand on m'a dit que si, mon corps réagissait plutôt bien et que la tumeur avait diminué et qu'on
Elle diminuait
et qu'on était à ce moment-là, en bonne voie de rémission. Et ça c'était une nouvelle pour moi qui m'a laissé vraiment hébétée complètement, parce que je m'y attendais pas à cette bonne nouvelle là.
Et alors, votre réaction?
C'est compliqué à dire, parce que c'est comme l'annonce de ma rémission qui a eu lieu en mars. En fait, c'est des bonnes nouvelles, mais à ce moment là je suis tellement dans le dur, c'est-à-dire que c'est compliqué quand on nous dit les nouvelles sont bonnes alors que mon corps me hurle le contraire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis quand même dans un protocole qui est très très lourd, que je suis extrêmement mal, que ma vie n'est que souffrance nuit et jour, hein, je veux dire, dans ces périodes-là. Donc quand on me dit bonne nouvelle, j'ai quand même envie de me dire, il se trompe. Il a fait erreur, il n'a pas regardé le bon scanner, le médecin, alors que bien sûr que non, il ne fait pas d'erreur. Mais je me dis, ce n'est pas possible.
Oui,
et puis,
une première fois, on doute, la deuxième fois, ça se précise.
Oui, c'est... et puis être sur la bonne voie ne veut pas dire qu'on s'en sort. Donc c'est vrai que je suis heureuse, mais j'ai du mal à le ressentir. Vous voyez, c'était juste après Noël, hein, c'était le 2 janvier, cette annonce-là. J'ai passé le pire Noël de ma vie, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai suivi la messe de Noël à la télé, donc preuve en est que l'espérance était encore là, même si l'espoir était mince. Et j'accueille bien sûr la bonne nouvelle et je me dis, mais c'est pas vrai qu'il va y avoir la lumière au bout du tunnel. Et pourtant, c'est compliqué de se réjouir quand on est dans la souffrance. C'est quand même pas facile à ce moment-là.
Oui, et puis on peut difficilement réfléchir, on peut difficilement poser ses pensées, tout ça est lourd.
Oui, ah oui, à ce moment-là, c'est vrai que je suis dans le tunnel et je ne relève pas la tête. Même quand on me dit, regarde, il y a de la lumière au bout, c'est vrai que je ne relève pas la tête. Et la joie à ce moment-là, ou du moins l'espoir, c'est ceux de mes proches qui m'entourent, hein, c'est-à-dire oui. Ma sœur qui s'occupe de moi quotidiennement, mon père qui m'accompagne, tous les gens autour, bah, eux par contre, c'était pour eux la nouvelle inespérée que... Bah, qu'il y avait de l'espoir, quoi. Qu'il y avait de l'espoir dans mon cas.
Il y a quelque chose dont on doit se dire, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Oui. En même temps, on y croit et on n'y croit pas.
Ça paraît toujours étrange parce que moi, j'étais tellement sur un chemin qui me semblait tout tracé. C'est-à-dire que je vivais toutes les stations de la passion et je me disais, bah, bien sûr, ça a du sens. Bien sûr, ça a du sens pour moi. Je veux dire, j'ai eu la couronne d'épines, j'ai eu la sainte lance, j'ai eu toutes ces épreuves-là où je me disais, ah oui, c'est ça que je suis en train de vivre. Et vu que j'avais bien suivi mes cours de catéchisme, je reconnaissais exactement. Et donc, je me disais, la fin, évidemment, ça va, comment ça va finir? Évidemment, ça va finir comme ça. Et donc, qu'on me dise, bah non, non, ça finira différemment, bah, j'ai du mal à y croire parce que j'ai tellement trouvé du sens dans mon chemin de croix que pour moi, le chemin de croix, il n'y a pas d'autre issue possible, vous voyez. Et pourtant, bah, évidemment, j'accueille la bonne nouvelle, parce qu'évidemment, j'ai envie que la souffrance s'arrête, évidemment, j'ai encore envie de vivre, j'ai envie d'aller vers le baptême, d'aller vers la vie, hein, tout simplement, d'aller vers tout ce que représente la vie à ce moment-là.
Quel était le premier signe de vie? Quelle première envie? On appelle ça une envie. La première chose.
Alors, ce serait difficile à dire parce que, en fait, je me suis retrouvée comme une enfant. C'est-à-dire, pour moi, c'est d'où le sens de me faire baptiser parce qu'on baptise les enfants. Moi, comme une enfant, j'ai tout réappris. Il faut se dire qu'après mon cancer, j'étais en rééducation pendant 6 mois, j'ai dû réapprendre à marcher. Je n'arrivais plus à marcher. J'ai dû réapprendre à respirer.
Alors, marcher, c'est venu du fait que vous étiez. Vous ne faisiez pas du tout d'exercice, c'est venu de quoi?
J'étais trop faible pour marcher à l'hôpital, j'ai été hospitalisée extrêmement longtemps, et donc à force de plus marcher, vous voyez, ma sœur me poussait en fauteuil roulant, bah on perd très très vite hein, les muscles des jambes, et puis j'étais très faible, tout simplement. Donc vous voyez, comme une enfant, bah, j'ai fait mes premiers pas, j'avais envie de marcher, j'ai fait mes premiers pas, j'ai réappris à manger, parce que je ne mangeais plus, donc... Vraiment, je me suis sentie comme une enfant. Vous voyez, au printemps, il y a les premières fraises. Et moi, quand j'ai goûté, que j'ai senti le goût des fraises, je veux dire, il faut se dire que j'avais plus aucun goût dans la bouche. J'ai même plus de salive, hein, je veux dire, depuis 6 mois. J'avais même oublié le goût des aliments. Et j'ai vraiment eu cette image de comme les enfants de 2 ans, vous savez, quand on leur dit, bah, tiens, je vais te faire goûter une fraise. Bah, moi, j'ai goûté les fraises. Je me souviendrai du goût de ces fraises. Et à ce moment-là, j'ai réappris à marcher. J'ai réappris à respirer. Et j'allais vers le baptême bah, de la même manière qu'on baptiserait une enfant. Hein, je dirais. Et toutes ces premières fois dans ma vie, pour moi, c'était des bénédictions parce que c'était des deuxièmes premières fois.
C'est renaître.
Hein, c'est... Ah, bah, j'ai vécu une renaissance. J'ai vécu une renaissance à tout point de vue. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on se retrouve sans les cheveux, mais pareil à la manière d'un nourrisson. Et puis, j'étais... Vous voyez, mon père, il s'est occupé de moi, mais comme il s'est occupé de moi quand j'étais bébé, ma sœur, elle a dû m'aider à me laver, elle me nourrissait presque à la cuillère. Enfin, j'ai eu une seconde naissance. J'ai eu une seconde naissance. Et donc, toutes les premières fois, je m'en suis souvenue. Toutes les premières fois.
Quand on voit votre petit livre, il y a une photo sur la couverture. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
C'est un portrait de moi. C'est un portrait de moi et il y a beaucoup de gens des fois qui me disent « c'est un portrait de toi quand t'es malade ». Et je leur réponds « non, c'est un portrait de moi en mars 2025, c'est un portrait de moi quand je vais vivre. C'est pas un portrait de moi quand je suis malade ». Parce que comme toutes les femmes, je suis un peu coquette et j'ai pas pris beaucoup de photos de moi dans la maladie. Et puis quand j'essayais d'en prendre, je voyais quelqu'un qui allait mourir. Mais vraiment, je veux dire, j'avais un teint gris, je paraissais déjà absente dans mes yeux, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus aucune lueur. Enfin, j'ai pas de photos de moi, énormément de photos de moi malade. Et j'aurais jamais voulu que sur la couverture de mon livre, il y ait une photo de moi malade. J'ai pris cette photo le jour de l'annonce de ma rémission, au mois de mars. Donc le jour où factuellement, je vais vivre. Et c'est pas la photo d'une femme qui va mourir, c'est la photo d'une femme qui va vivre. Parce que je pense que mon récit... c'est un récit de vie et c'est une ode à la vie. Enfin, il y a vraiment un élan dans ce récit qui est celui de la vie, qui continue malgré tout, et des lueurs qu'il y a dans l'obscurité. Vous voyez, on s'imagine souvent que quand on est malade, on tombe dans un espèce de magma sombre où il peut rien arriver de bien. Et moi, je découvre dans la maladie que même dans l'obscurité, il peut y avoir des lueurs, qu'il peut y avoir des moments de joie aussi. Qu'il peut y avoir des moments drôles, d'ailleurs, je ne sais pas si certains passages de mon livre vous ont fait sourire, mais qu'il y a des moments plus légers, qu'il y a des moments d'amour, qu'il y a des moments de partage avec mes sœurs d'infortune à l'hôpital. Et...
Vous étiez la plus jeune.
Oui. Oui, c'est ce qui arrive beaucoup dans ce genre de parcours. J'étais la plus jeune. Alors, non pas que j'étais la plus jeune à avoir ce genre de cancer, parce que malheureusement, on sait que les cancers du sang sont aussi des cancers pédiatriques, mais les enfants sont... dans des ailes à part de l'hôpital et dans les adultes. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais une des plus jeunes. Et d'ailleurs, j'étais une des plus jeunes partout parce que quand je me suis retrouvée en clinique de rééducation, j'étais aussi la plus jeune. Et à la sortie de mon livre, j'ai fait la connaissance d'une association chrétienne extraordinaire nationale que vous connaissez peut-être qui s'appelle Lourdes Cancer Espérance, LCE, et qui organise des pèlerinages à Lourdes pour les gens qui sont malades du cancer. Et je suis tout de suite devenue leur petite mascotte. Elles étaient toutes là à mon baptême, les dames. C'est extraordinaire, la communauté chrétienne. Et je suis tout de suite devenue leur petite mascotte adorée bah parce que j'étais, encore une fois, la plus jeune. Je me suis habituée à être la plus jeune.
C'est touchant. Et en même temps, c'est un livre qui un livre d'espérance. Ce que vous nous dites. Et alors, comment s'est passé le moment où on vous a dit rémission ? Vous le sentiez venir ? Qu'est-ce qu'il y avait ?
Alors, autant je ne sentais pas venir en janvier l'annonce qu'on était en bonne voie, que la rémission, en tout cas, était envisageable pour moi, autant l'annonce de la rémission, bon, on fait quand même énormément d'examens, donc je la sentais un peu venir. Et pourtant, ce n'était pas l'explosion de joie, parce que comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, j'étais encore très très mal. Hein. Je veux dire, j'étais quand même encore dans la souffrance et je n'étais pas capable de me réjouir. Hein. La joie est venue vraiment plus tard, dans la découverte de la vie sans la maladie. Vous voyez, le jour où vous n'avez plus des infirmières qui viennent quotidiennement vous faire tout un tas de piqûres, de prélèvements tous les jours. Le jour où vous vous réveillez le matin et vous avez pas mal. C'est tous ces jours-là, en fait, qui ont suivi où j'ai découvert la joie. Mais la rémission en elle-même, j'étais un peu hébétée, j'étais aveuglée un petit peu par la lumière que je voyais au bout du tunnel. Et puis j'étais terrifiée aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'après-maladie, moi, ça m'a terrifiée, parce qu'il faut imaginer des semaines, des mois... Où j'étais vraiment dans le dur, où j'étais concentrée sur un jour après l'autre, une minute après l'autre, un jour après l'autre, où j'arrivais pas à avoir une visibilité à plus d'un jour ou deux. Hein. Et là, d'un coup, on me dit, va falloir revenir dans la vie, va falloir tout réapprendre, va falloir un jour se remettre à travailler, va falloir un jour marcher toute seule dans la rue, et va falloir vivre toute seule, va falloir manger toute seule, et puis va falloir vivre avec ça, quand même. Va falloir vivre avec une épreuve vécue. Et moi, je savais que ma vie d'avant, c'était fini. je serais, enfin, ma vie, elle allait reprendre différemment, mais je savais que j'allais plus du tout être la jeune femme que j'avais été parce qu'il y avait trop de choses qui s'étaient passées. Quand moi, tout avait changé. Et ça m'a terrifiée, la rémission aussi, parce que ça m'a paru titanesque, le fait de tout reconstruire. Je me dis, mais comment je vais arriver à reconstruire toute ma vie qui est en miettes? Comment je vais réussir à surmonter le traumatisme, à pas faire de cauchemars, à plus avoir peur toute seule de sortir, et comment je vais faire avec mon corps qui est abîmé aussi? Enfin, vous voyez, il y avait toutes ces interrogations-là qui finalement ont fait que j'étais pas en joie. La joie, elle est venue plus tard, avec la vie.
Et la première sortie, seule, qu'est-ce que c'était?
Avant de sortir toute seule, j'ai eu beaucoup de sorties accompagnées. Et mon père a été extraordinaire à ce niveau-là, et ma sœur aussi, parce qu'il me tenait le bras, comme on ferait à une vieille dame, et puis on faisait un petit tour du pâté de l'église, du pâté de maison. On allait jusqu'à l'église, pardon, justement, qui est pas très loin de chez moi. On allait jusqu'à l'église parce qu'il savait que ça me faisait plaisir. J'étais accompagnée. La première sortie toute seule, ça a été... j'ai dû mettre un petit peu un coup de pied aux fesses pour le faire parce que je me suis dit, si tu te lances pas, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur de plein de choses, vous savez, de faire un malaise dans la rue, d'être trop faible, d'être toute seule... Et je me suis lancée petit à petit, et finalement, bah, la vie, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Enfin, en tout cas, je m'en suis aperçue que tout revenait finalement bien plus vite que je ne pensais.
La vie, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Une très jolie phrase. Mais je voulais vraiment vous remercier d'être venue jusque-là. Alors, votre papa vous écoute actuellement?
Je pense, oui.
Ah, donc vous aurez des amicaux.
Je pense qu'ils m'écoutent.
Et vous repartez pour Dijon?
Eh bien, je repars pour Dijon, oui, dès demain matin.
Dès demain matin. Et la boutique?
Alors la boutique, j'ai la chance d'avoir une super collaboratrice.
Elle était abandonnée, la boutique?
Alors non, encore une fois, j'ai eu de la chance d'être très bien entourée, d'avoir beaucoup d'amour autour de moi, parce que moi, la boutique, qui est pourtant ma petite boutique que j'adore, à ce moment-là, c'était le cadet de mes soucis. C'est-à-dire que vraiment, je m'en suis absolument pas souciée. D'ailleurs, j'en parle à peine dans mon livre, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout dedans. Et c'est mon entourage qui s'est dit, mais il faut que sa boutique tienne pour que, tout simplement, elle puisse, si elle s'en sort, elle puisse retrouver quelque chose. Parce que quand on retrouve qu'un champ de ruines, quand en plus on n'a plus de boulot, plus rien, voilà. Donc ils se sont dit, non, il faut qu'elle puisse retrouver sa boutique. Parce que ça lui fera plaisir et ça lui fera du bien. Et donc, j'avais une collaboratrice à ce moment-là, que j'ai toujours, hein, qui a tenu la boutique aujourd'hui pendant que j'étais dans le train pour Paris, qui a été extraordinaire pendant cette période. J'ai des amis, j'ai mon compagnon de l'époque qui ont fait mon travail en plus du leur. C'est-à-dire, à la fin de leur journée de travail, ils allaient en plus... s'occuper de la gestion quotidienne, de la comptabilité, des commandes, pour faire en sorte que la boutique soit pas fermée. Même des gens qui savaient pas forcément le métier, mais ils y allaient en disant au moins la boutique sera ouverte, on va faire ce qu'on peut, on va expliquer la situation aux clientes. Et c'est grâce à tous ces gens-là, vous voyez, qui se sont mobilisés autour de ma maladie, qui se sont mobilisés pour moi, que je suis toujours là avec ma boutique aussi. Donc je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée quand j'ai été capable de reprendre le chemin du travail.
C'est vraiment très, très touchant de voir combien l'entourage est important. Vous avez été entourée. Quelqu'un qui ne l'est pas, c'est vraiment terrible.
Oui, clairement. Moi, je dis... Des fois, on dit on ne sait pas quoi dire à des gens dans l'épreuve. Et moi, je sais que maintenant, les gens qui m'annoncent des épreuves, je leur demande toujours s'ils sont bien entourés. Parce que finalement, ça change tout. Mais ça change tout. Je veux dire, moi, je ne sais pas ce que je serais devenue. Je ne pense pas, d'ailleurs, je me dis souvent, mais on ne sait pas. Mais que je n'aurais pas survécu sans ma sœur. Voilà, sans ma sœur qui s'est tellement, mais tellement dévouée à s'occuper de moi pendant chaque jour de ma maladie, ma grande sœur... Sans mon père, sans mes amis, sans mon compagnon, sans tous ces gens-là, mais tous ces gens-là qui étaient autour de moi. Et puis même au sein du corps médical, vous voyez, il y a beaucoup de choses de nos jours qui sont remplacées par l'intelligence artificielle, mais moi je dis toujours, rien ne, dans l'épreuve, rien ne remplacera jamais la main d'une infirmière. Jamais. Et moi, je m'en souviendrai toujours hein, de ces soignants, de ces infirmières, de ces aides-soignantes, de ces médecins qui m'ont pris la main quand j'avais besoin, qui m'ont rassurée, qui ont su des fois trouver les mots. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait que soigner mon corps. Ils ont soigné mon corps, mais s'ils avaient soigné mon corps comme si c'était de la mécanique, et si j'avais été toute seule, mais je n'aurais jamais survécu à tout ça, jamais. C'est les autres qui m'ont portée.
On est toujours en admiration. Pardon. Lorsqu'on voit les infirmières travailler, les infirmières, quand on les voit... On fait une promenade en forêt avec une infirmière. Comme ça, une balade. On ne pense pas qu'elle est infirmière. Mais d'un seul coup, elle est attentive à tout. C'est très, très surprenant. Les infirmières, par exemple. Les aidants sont attentifs, présents.
C'est ce qui s'appelle les métiers du soin. Et j'ai un infini respect pour les métiers du soin.
Admirable.
Parce que le soin, c'est une vocation. C'est une vocation. Et juste pour vous, si j'ai encore le temps de vous dire une phrase qui m'a tellement touchée, c'est tout au début de mon processus de maladie, quand j'étais alors persuadée que j'allais mourir, j'ai demandé à une infirmière, j'ai dit « Mais comment ça se passe sur la fin? Qu'est-ce que vous allez faire de moi quand, maintenant, si je ne peux pas guérir ?» Et là, il y a une infirmière, elle m'a répondu « Vous savez, c'est pas parce qu'on ne peut pas vous guérir qu'on ne peut pas vous soigner. » Et ça, c'est extraordinaire quand on y pense comme phrase. Parce que les métiers du soin, ça va bien au-delà de la guérison. C'est le soin, et ça, c'est extraordinaire.
C'est les soins palliatifs, c'est ce qui permet de mourir serein. On aide à mourir, mais sans provoquer la mort, au contraire. On accompagne, on est avec, on est proche. C'est une histoire d'amour encore.
De toute façon, beaucoup d'infirmières en soins palliatifs vous diront « on prend la main ». On prend la main et c'est déjà tellement de prendre la main. Mais moi, voilà, j'ai tellement de chance que pendant tout mon parcours de soins, que ce soit du personnel soignant ou mon entourage ou ma famille, tout le monde m'a pris la main et finalement c'est... Je dis toujours, je ne me suis pas battue contre le cancer, mais s'il y a un combat qui a eu lieu, bah, c'est tous ces gens-là qui se sont battus pour moi, à ma place, parce que je n'étais pas capable de me battre. Eux se sont battus, et ils m'ont pris la main.
Je voulais vous remercier avant que nous puissions écouter le Stabat Mater, que vous aimez beaucoup. Je voulais vous remercier d'être venue jusqu'à nous, d'être venue faire la Parisienne. Je voulais remercier Nathalie, fidèle, et puis Aline qui est derrière la vitre. Merci. Et je termine comme terminait Jean-Christ Sacchi de Germain, qui était l'animateur de cette émission. Et que Dieu nous garde.
Vous venez d'entendre le libre journal du Monde de la Foi, dirigé par Nicole Pilorge, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 28 avril 2026, de 21h30 à 23h, et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.